Oh, Père éternel, on vient devant ton trône de grâce ce soir, Père éternel. Puis on ouvre vraiment nos cœurs parce qu'on veut recevoir de toi, Seigneur, tout ce que tu as en réserve. Même, Père éternel, on sait que tu agis toujours infiniment au-delà. Alors, on s'attend, Père éternel, que tu enlèves les choses qu'on n'a pas besoin dans notre vie, Seigneur, et que tu remplaces ça, Père éternel, par ta force toute puissante, par ton onction, Seigneur, par ta parole qui agit en nous. Merci, Seigneur, de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser, Seigneur. On s'en remet à toi, Seigneur. On te glorifie, on te remercie d'avance, Seigneur. On rouvre nos cœurs ce soir, et Père éternel, on croit que la parole va faire toujours ce qu'elle dit, Seigneur. Et Père éternel, on est changé de gloire en gloire. Dans le nom de Jésus, amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Eh bien, voilà. À peu près 4 semaines passées, parce que la semaine passée, on a prêché sur d'autres choses, mais la 4 semaines passées, on avait commencé des enseignements sur ne pas endurcir notre cœur. Amen. Et puis, on avait pris notre texte dans Hébreux. On va retourner, puis on va aller rechercher, parce qu'on s'est appuyé sur ce texte-là pour vraiment préparer les enseignements que Dieu voulait qu'on regarde au travers de sa parole. Et la parole de Dieu, on ne va pas tout lire le texte au complet, on le relira peut-être plus tard, mais voyez-vous, dans Hébreux 3, verset 8, ça dit, « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent. » On sait très bien que les Israélites, c'est eux autres qui ont tenté Dieu, c'est pas Dieu qui nous tente. Amen. Dieu le dit lui-même qu'il ne tente jamais personne avec le mal. Amen. Alors, il dit, non, Dieu, c'est pas vos cœurs. Et lorsqu'on regarde au verset 13, c'est la même chose. Il dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Après ça, si on regarde au verset 15, ça dit, « Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Après ça, si je regarde au chapitre 4 et au verset 7, ça dit, « Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et comme on a dit dans les semaines passées, dans presque 20 versets de tout le contexte à propos des Israélites, 4 fois, il nous répète. Puis quand Dieu prend la peine de parler par son Saint-Esprit pour que quelqu'un écrive cette parole, et puis 4 fois en dedans de presque 20 versets, il dit « N'endurcissez pas votre cœur ». Et puis que si on lit tout le contexte, ça dit qu'ils n'ont pas été capables de rentrer dans le repos de Dieu parce que justement, il y avait le cœur endurci. Alors, ça veut dire que c'est très important, puis on doit prêter attention à cette parole qui se répète continuellement. Amen. C'est tellement néfaste. On va juste aller à Proverbe 28 parce qu'on veut rétablir la fondation, Proverbe 28, bon, j'y arrive moi aussi. Et au verset 13, ça dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. » Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Alors, la parole ici nous démontre qu'est-ce que ça peut faire quelqu'un qui endurcit son cœur. Il s'en va pas vers la réussite, ça c'est sûr et certain, il va tomber dans le malheur. Et au chapitre 29, le verset 1, ça dit, « Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. » Alors, comme j'avais dit dans les semaines passées, ça, c'est pas quelqu'un qu'une fois, tu lui dis quelque chose, une fois ou deux, puis la personne arrête dit un peu le coup. On parle de quelqu'un qui... Puis l'exemple que la parole de Dieu nous montre dans Hébreu, c'est à propos des Israélites, puis c'était à répétition. C'est quand tu connais mieux que ça, tu connais le Seigneur, puis tu sais très bien ce que la parole de Dieu dit, mais tu résistes continuellement, aussitôt que tu es repris. On appelle ça endurcir notre cœur. Et puis, à ce moment-là, eh bien, la parole de Dieu nous met en garde qu'on peut tomber dans le malheur, puis le remède que ça va prendre pour te réveiller, et ça va en prendre tout un. Amen, parce que la Bible a dit que si quelqu'un a vraiment, mais il arrive à la place, il y a une différence entre être aveuglé par quelque chose, puis quelqu'un que, parce que moi, je connais des gens qui étaient, ils ont succombé, si on pourrait dire, à la tentation, puis ils ont tombé dans la boisson, puis toutes ces choses-là. Mais à chaque matin, quand il se levait, il demandait pardon à Dieu, puis il disait, il criait pour de l'aide, mais c'était plus fort qu'eux autres. Aussitôt qu'il s'étirait le bras, puis il prenait une bière, il était reparti. Comprenez-vous? C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, cette personne-là a un cœur endurci, puis elle a le... On ne sait pas. C'est Dieu qui regarde au cœur, puis Dieu voit le cœur des gens. Mais moi, je parle selon qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de quelqu'un qui résiste à Dieu. Continuellement résiste et puis endurcit son cœur. Bien, la parole de Dieu dit qu'il peut tomber puis qu'il n'y a aucun remède à un moment donné pour se relever. Amen. Alors, on a vu aussi dans les semaines passées à propos des apôtres qui étaient avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, lorsqu'il avait fait la multiplication des pains, puis après ça, il nous a dit, « Méfiez-vous du levain des pharisiens. » Ils ont dit, « C'est parce qu'on a oublié d'apporter du pain avec nous autres. » Puis, il les a regardés, puis il dit, « Avez-vous encore le cœur endurci? » Il dit, « Je ne vous parle pas du pain dans le naturel, je vous parle du levain des pharisiens. » Après ça, un petit peu plus loin, Jésus, il est apparu aux femmes qui s'étaient allées au tombeau. Et puis, ils sont retournés leur dire que, « Hey, on a vu Jésus. » Puis, ils ne les ont pas cru. Puis, Jésus dit, « Avez-vous déjà encore le cœur endurci? » Ça veut dire que, des fois aussi, les gens vont s'endurcir au point de vue des miracles. « Oh, on sait que Dieu peut faire ça, mais on dirait qu'ils s'endurcissent ou tu lui comptes une affaire qui est arrivée dans ta vie, puis, « Oh, oui, ouais, tu as été chanceuse. » Ils ont de la misère à dire, oui, hey, le Seigneur est bon, puis le Seigneur a travaillé dans ta vie. On dirait qu'ils ont de la misère. Puis quand tu fais ça, tu endurcis ton cœur. Tu endurcis ton cœur aux bontés de Dieu, à la puissance de Dieu, à la grandeur de Dieu. Puis on a démontré par les semaines passées que même les apôtres avaient endurci le cœur à un certain moment donné. Puis Dieu devait les corriger, Jésus devait les corriger. Parce qu'un jour, c'est eux autres qui allaient continuer l'Église, commencer l'Église, puis continuer les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont bien mieux de ne pas avoir un cœur endurci, parce que ça n'aurait pas duré longtemps. Amen. Amen. Alors, l'humilité, on a démontré que l'humilité va plutôt amener des choses extraordinaires dans ta vie. Restez humble. Pourquoi? Parce qu'on va aller à Jacques 4. Parce que l'humilité, c'est le contraire d'endurcir ton cœur. Jacques 4, et puis je vais lire le verset 6. Ça dit, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Les orgueilleux, c'est ceux qui s'endurcissent. Quand une personne a dit, il n'y en a pas question, je ne changerai pas d'idée, c'est comme ça, puis ça va rester comme ça, puis elle s'endurcit. Ça, c'est une personne qui est orgueilleuse, une personne qui a un cœur endurci. La parole de Dieu dit que Dieu, lui, il fait grâce aux humbles. Amen. Puis je peux vous dire une chose, c'est qu'on a besoin de la grâce de Dieu sur nous. Fait que vraiment, de marcher dans l'humilité, c'est vraiment pour nous une grande protection. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux? Parce que les orgueilleux résistent à Dieu. Amen. L'orgueilleux, il ne veut pas se faire corriger. Il résiste à Dieu. Bien, Dieu résiste. Amen. Mais si la personne marche en humilité et elle dit, OK, Seigneur, j'ai besoin de correction, c'est parfait, Seigneur, je vais changer, je vais m'améliorer, je vais faire ce que tu me dis. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu fait grâce aux humbles. Puis la grâce de Dieu, on en a besoin. Premièrement, la parole de Dieu nous démontre la force de la grâce. La grâce, c'est ça qui nous a sauvés. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens qu'on a été sauvés par grâce, parce qu'il nous a fait une grâce, une faveur non méritée, parce qu'il nous a mis en nous les habiletés de pouvoir obtenir qu'est-ce qu'on n'obtiendrait pas de nous-mêmes, puis que c'est Dieu lui-même qui nous sauvait en Jésus-Christ, une grâce qu'il nous a faite, ça nous a sauvés. On en a besoin de la grâce, parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans 2 Corinthiens 8:9, ça dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De riche qu'il était, pour vous, il s'est fait pauvre. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. La grâce de Dieu va te rendre capable de devenir riche. La grâce de Dieu va te rendre capable d'être sauvé. La grâce de Dieu, on en a besoin. Alors moi, j'aime bien mieux ne pas avoir un cœur dur. Et si Dieu me résiste, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Si Dieu n'est pas pour moi... Tous ceux qui peuvent être contre moi vont être contre moi. Amen. Moi, je veux pas avoir Dieu à dos. Amen. Alors vraiment, l'humilité, c'est ce qu'on doit rechercher. Ça devient une protection dans nos vies. Moi, j'ai vu souvent dans le ministère, parce que ça fait 25 ans cette année que j'enseigne la parole de Dieu. Alors, j'ai vu souvent dans le ministère des gens qui sont arrivés puis ont dit, je peux pas dire que j'avais la foi pour tout ce qui m'arrive aujourd'hui. Je ne peux pas arriver et dire que j'ai vraiment cru pour ça, mais hey, je suis démontée de voir que Dieu il m'a donné la job que je voulais, les choses. Là, je suis rendue que j'ai ça. Mais bien des fois, j'ai regardé dans la vie de ces gens-là, et oui, c'est vrai que peut-être on ne peut pas dire que c'était des gens, des fois, avoir une foi à transporter des montagnes. Mais il y a une chose, par exemple, c'était des gens qui prenaient la parole de Dieu, puis s'il y avait de quoi changer, tout de suite, ils étaient rapides à changer. C'était des gens que si tu leur parlais, puis ils s'apercevaient qu'ils étaient dans l'erreur, et puis doucement, tu montrais quelque chose dans la parole de Dieu, c'est des gens que tout de suite, ils disaient, « Oh mon Dieu, hey, je vais changer ça. » Tu t'apercevais que c'était des gens humbles, puis je le savais ce qui s'était passé dans leur vie. C'est que la grâce de Dieu, elle avait surabondé. Puis là où que eux autres, il y avait peut-être une faiblesse, la grâce de Dieu était là. Amen. Si la grâce de Dieu est capable de te sauver, de t'empêcher d'obtenir qu'est-ce que tu mériterais puis aller en enfer, la grâce de Dieu est capable de faire bien des choses. L'apôtre Paul suppliait pour la grâce de Dieu. Lui-même, Dieu lui a dit à un moment donné, « Ma grâce te suffit. » Prends, autrement dit, prends ma grâce. Et c'est pour ça que s'il y en a un qui parle de la grâce de Dieu, c'est bien l'apôtre Paul. Il dit, par sa grâce, j'ai réussi. Je me priverai pas de la grâce de Dieu. Et il dit, n'abusez pas de la grâce de Dieu. Il nous démontre l'importance de la grâce de Dieu. Amen. Alors vraiment, quelqu'un qui s'endurcit le cœur, puis on a démontré que des fois les gens s'endurcissaient le cœur par des blessures, parce que là ils montaient un mur puis ils disaient, ben il faut bien que je me protège, parce que je veux plus que ça m'arrive, puis là ils endurcissaient le cœur, puis ça passe plus dans ma vie. Mais c'est, il faut pas, et il faut pas parce qu'on se prive. La parole de Dieu nous dit que un cœur dur, eh bien, ça l'attire le malheur. C'est sûr que ça l'amène pas de la joie puis de la liberté. Amen. Les Israélites, quand on lit tout le contexte de Hébreux 3 et 4, ils n'ont pas été capables de rentrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ont toujours endurci leur cœur. On va regarder un petit peu ce soir aussi de quelle manière ils endurcissaient leur cœur. Amen. Mais la grâce de Dieu nous a même guéris. On va aller dans 1 Pierre. Fait qu'on peut pas se priver de la grâce de Dieu. Puis si Dieu dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais je peux vous dire une chose, moi je veux être humble. Je veux être facile à corriger. Parce que la grâce de Dieu, j'en ai besoin. Il y a des choses que je veux obtenir, puis je suis pas sûre des fois si ma foi est toujours infaillible. Amen. Ben moi je veux que la grâce de Dieu travaille dans ma vie. Amen. Et puis si des fois je suis rendue trop fatiguée, ou il arrive des choses que c'est plus grand que qu'est-ce que je pense que je serais capable de faire, eh bien, je veux que la grâce de Dieu me soutienne. Amen. C'est par grâce. Amen. Vous connaissez l'apôtre Paul. Même dans Romains 12, quand l'apôtre Paul parle, dans Romains 12, il dit, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il a fait des dons. Il a donné à un d'être capable d'enseigner, à un autre d'être capable d'exhorter, à un autre d'être capable d'agir avec libéralité. Dans Romains 12, toutes sortes de dons qu'il a donnés. Puis il dit, c'est par la grâce de Dieu. On sait très bien que la grâce de Dieu, on en a besoin. Amen. Alors, moi, je veux ouvrir la porte grande à la grâce de Dieu. Je veux qu'il me rende capable de faire des choses que je ne serais pas capable de faire de moi-même. Amen. Alors, dans 1 Pierre 2, et si je commence à lire au verset 20, ça dit, « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? » Il n'y a pas de gloire là-dedans. « Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » C'est exactement ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Il a supporté la souffrance pendant le temps qu'il faisait du bien. Quand il portait sa croix, quand il est allé, quand il a souffert, il a été flagellé. Il a supporté la souffrance, le rejet. Les mêmes personnes que lui avait guéries les semaines auparavant, ils criaient « Crucifie-le ». Amen. Mais c'est une grâce. Amen. Ben moi, je veux être capable. Mais cette grâce-là, à le fait que, au verset 21, ça dit « C'est à cela ce que vous avez été appelés. » Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude. Lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Autrement dit, il marchait en humilité, il endurcissait pas son cœur. Vous savez, Jésus, il a été tenté en toutes choses. Il aurait pu endurcir son cœur de la façon qu'il était traité. Amen. Mais il gardait une humilité. Et ça dit, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, et afin que mort au péché, on vive pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors, on a vu que la grâce nous a sauvés. La grâce, il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous enrichir. Puis c'est une grâce qu'il a souffert. Qu'est-ce qu'il méritait pas? Parce qu'il voulait absolument s'en remettre à Dieu pour nous. Et puis à cause de ça, on a été guéris. Alors la grâce, on en a besoin. Alors si des fois les gens disent comment on fait pour obtenir la grâce, il y a deux manières. Dans Proverbe 3, ça dit, si la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, si c'est lié à ton cou puis écrit sur la table de ton cœur, tu obtiendras de la grâce ou de la faveur, c'est la même chose, auprès de Dieu et des hommes. Marche en bonté puis en fidélité, tu vas obtenir la grâce, puis reste avec un cœur humble devant Dieu, puis Dieu fait grâce. Puis moi, j'en ai besoin. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, on voit l'importance de ne pas endurcir son cœur. Amen. Il n'y a rien qu'on va pouvoir surmonter dans la vie sans la grâce de Dieu. Parce qu'une des définitions de la grâce de Dieu, c'est l'habilité de Dieu en moi pour faire les choses que je ne serais pas capable de faire de moi-même. Tu sais, des fois, le monde, ils vont dire, « Oh, c'est la grâce de Dieu. Hein? Je pensais jamais être capable de passer au travers de ça. » C'est ça. C'est l'habilité de Dieu en toi pour faire des choses que tu ne serais jamais capable de faire de toi-même. On en a besoin. Dans les temps dans lesquels on vit, on en a besoin si on veut être capable de résister jusqu'à la fin. Amen. La grâce va nous aider à supporter les choses. Tu sais, des fois, les gens ils vont dire, « Wow, c'est la grâce de Dieu. Hein? Je me demande comment qu'elle fait pour supporter ça ou passer au travers de telle et telle chose. » Amen. Puis, il y a des degrés de grâce aussi. Comme j'ai dit tantôt, il y a la grâce de Dieu qui peut être une personne qui la rend capable d'enseigner ou être pasteur ou être un évangéliste. Il y en a qui, tu vas dire, je ne sais pas comment ils font. Hein. Ils vont dans les pires pays, ils couchent à terre, c'est plein de bébites. C'est la grâce de Dieu. C'est des degrés de grâce qu'ils ont obtenus qui les rend capables de faire ça. Merci Seigneur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, j'accepte d'être corrigé. Amen. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire, Si ça aurait été un autre qui me l'aurait dit, mais pas lui ou pas elle, je l'aurais pris. Mais venant d'elle ou de lui, je ne suis pas capable. Endurcis pas ton cœur. OK? La correction, c'est la correction. Tu n'aimes peut-être pas la personne qui te l'a dit, puis peut-être que tu auras envie d'en dire ça de long, qu'elle devrait changer ou lui devrait changer ses affaires. Mais si, parce que je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai reçu souvent des emails, des courriers électroniques qui n'étaient pas beaux. Amen. Qui n'étaient vraiment pas gentils. Plein de colère, puis plein d'accusations. Amen. Et puis, je me demande pourquoi les gens font ça, parce que le nom est écrit en bas, tu sais, je veux dire. Mais la première chose que je faisais, c'est je regardais, est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Tu sais? Est-ce que, malgré si je tassais la colère, là, puis la grosse condamnation qui me mettait sur le dos, y a-t-il quelque chose qui ont dit là-dedans qu'il y aurait du vrai ou que, accidentellement, oui, peut-être, c'est vrai que j'ai donné cette impression-là, puis ça, je devrais le corriger. Parce que j'ai dû le faire, ça. Il y en a des emails que je l'ai tout examiné comme il faut, là, puis je les ai mis dans filière 13. OK? Et puis, j'ai tout simplement dit, j'endurcirai pas mon cœur envers cette personne-là. Je vais rester quand même gentille. Amen. Mais il y a d'autres emails que j'ai lus. Puis si je tassais toute la colère que la personne pouvait avoir, puis toutes les accusations qu'elle pouvait faire, je me disais, c'est dommage que j'ai donné cette impression-là. C'était pas dans mon vouloir. C'est dommage qu'elle l'ait vu comme ça. En quelque part, j'ai dû faire quelque chose qui lui a occasionné de me voir si pire que ça. C'est beau en français, ça, hein? Si pire que ça. Puis là, ben, je disais, Seigneur, je vais me corriger. Il faut que je change ça. Il faut plus que je donne cette impression-là. Amen. C'est ça, accepter d'être corrigé. Amen. C'est, tu ne regardes pas qui te l'a dit ou si tu vois que ça fit un petit peu, corrige-le. Pardonne à la personne. Amen. C'est mieux de faire ça que d'endurcir son cœur. Parce que ça nous amène. Si on fait ça, on attire de la grâce. Tu peux aller vraiment devant le trône de grâce, parce que le trône de Dieu, c'est un trône de grâce, amen. C'est ce que ça dit dans Hébreu, approchez-vous avec assurance du trône de grâce. Fait que, puis tu peux aller devant lui et dire, Seigneur, je n'ai pas endurci mon cœur. Je suis bonne. Hein? Au moins, celle-là, je l'ai réussi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Donne-moi ta grâce. Puis Dieu dit qu'il fait grâce aux uns. Fait qu'il va répondre à ce qu'il dit, parce que quand il parle, la chose, elle arrive. Quand il leur donne, elle existe. Amen. Puis si Dieu le dit, il va le faire. Amen. Alléluia. Alors, merci Seigneur. Mais on va regarder à Deutéronome 1. On va regarder aux Israélites, justement, de quelle façon ils endurcissaient leur cœur. Voyez-vous, si je vais au verset 8, Moïse, il leur parle, puis il dit, « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, à eux et à la postérité après eux. » Vous vous souvenez comment, dans le livre des Nombres, Nombre 13, où ce que il avait envoyé deux espions, et puis pour aller voir, 12 espions, excusez, puis il y en a deux qui sont venus avec un bon rapport, puis ils ont dit, « Ah, c'est vrai, regarde, ça a pris une perche juste pour une grappe de raisin. Hey, c'est sûr, c'est un pays prospère. » Mais il y en a 10 qui ont dit, « On peut pas aller là, ça n'a pas de bon sens, c'est des géants. » Et ils vont nous écraser, à leurs yeux, on avait de l'air des sauterelles, puis ils ont découragé tout le monde. Vous vous souvenez de Nombre 13? Mais c'est de ça qu'il parle ici. Il dit, je leur ai dit, j'avais mis le pays devant vous. Amen. Après ça, on va aller au verset 19. Ça dit, nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel Dieu nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadès-Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois l'Éternel ton Dieu, mets le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Ça, c'est Moïse qui lui relate l'histoire au complet. Il dit, vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous en faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Il dit, cet avis me parut bon et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Et nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Bon, Dieu a dit, montez, puis parce qu'ils sont devenus avec, ils sont venus comme un mauvais rapport, non, on veut pas monter. On veut pas. Dieu dit, montez, je vous le donne, on veut pas. Mais pire que ça, on va regarder au verset 27. Il dit, vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Mais on va vous dire quelque chose. Quand ils sont arrivés à ce pays-là, là, prêts à conquérir, Dieu y avait fait des prodiges en Égypte. Dieu leur avait montré comment eux autres à Gozen, ils n'étaient pas touchés, puis comment les Israélites, eux autres, ils subissaient toutes les plaies de l'Égypte. Les Égyptiens subissaient toutes les plaies de l'Égypte. Dieu les a fait sortir en victoire. Il n'y avait aucun faible parmi eux. Il avait pris toutes les l'or et l'argent, les victoires qu'il y avait. Aussitôt qu'ils ont fait une journée de marche ou deux, là, ils ont dit, on a soif, il n'y a pas d'eau. Dieu, il a dit, fais tomber un arbre. Il y avait de l'eau là qui était amère. L'eau est devenue saine. Un petit peu plus loin, ils ont chiolé encore qu'il n'y avait pas d'eau. Dieu, il a dit, frappe le rocher, il y a de l'eau. Tu sais, je veux dire, là, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont peur à tous les deux minutes et puis qu'ils murmurent contre Dieu. Amen. Ils ont endurci le cœur. Ils ont vu les miracles, mais c'est passé. Ils ont vu comment Dieu il a changé l'eau amère en eau saine. C'est pas encore assez. Ils chiolent encore. Là, ils n'ont pas d'eau, ils frappent le rocher, ils chiolent encore. Voyez-vous, c'est comme s'ils endurcissent le cœur. Ils ont de la misère à voir comment Dieu il est toujours présent, puis comment Dieu produit les miracles pour eux. On dit, ils endurcissent toujours leur cœur. Mais là, quand ils sont arrivés au temps de conquérir la ville, bien là, il dit, OK, on peut monter. Dieu, il a été fidèle, il vous a fait sortir. Dieu, il vous a fait sortir avec toutes les richesses d'Égypte. Vous aviez besoin d'eau, vous en avez eu. Vous aviez besoin du pain, il vous en a donné. Vous avez besoin de la viande, il vous en a donné. Il a toujours tout fait pour vous. Et que ce ne sera pas différent, là. Regardez qu'est-ce qu'ils disent. On ne peut pas monter, c'est des géants, puis on le sait, là, qu'est-ce qui se passe. Ah oui, c'est quoi? Dieu, il nous a fait sortir d'Égypte parce qu'il veut nous faire mourir, puis il veut que les Amoréens nous tuent. Hey, là, t'es rendu bas pas mal. T'es rendu bas pas mal. Si Dieu avait voulu les faire mourir, il n'y avait rien qu'à les laisser en Égypte. Non, mais tu sais, il y avait juste à les laisser là, ils étaient tous en train de mourir parce qu'ils étaient en esclavage. Écoute, ils ne s'auraient pas donné la peine de produire tant de miracles pour t'emmener jusque-là. Mais savez-vous qu'il y a des gens que c'est comme ça? Faites du ministère assez longtemps, vous allez le voir. Amen. C'est comme ça. C'est incroyable quand tu endurcis ton cœur, tu deviens orgueilleux, rebelle, tu résistes Dieu, comment tu peux devenir aveugle? Moi, j'ai vu des gens qui ont vu le pouvoir de la prière dans leur vie, qui ont vu leurs enfants changer de vie, servir le Seigneur, puis une journée, ils ont commencé à se rebeller contre si, murmurer, chialer. Ils sont devenus tellement aveugles qu'ils ont fait des choses que je me disais, une femme intelligente comme ça, s'abaisser à faire ça, c'est comme c'est inimaginable. C'était une femme super intelligente. Elle se serait jamais laissée niaiser comme ça. Puis là, elle a embarqué dans une affaire et elle est complètement devenue aveugle. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Trouvez-vous qu'ils n'ont pas de l'air aveugles? Ils ont dit, Dieu, il nous a envoyé ici, on le sait. On le sait, Esther, imaginez-vous. Il dit, vous avez murmuré, mais eux autres disent pas ça de même, il dit, vous murmurâtes. Dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Ben oui, le Seigneur, il t'amène dans son église parce qu'il t'a hi. Tu sais, veut dire? Le Seigneur, il t'amène dans des choses différentes dans la vie pour te faire connaître comment il est parce qu'il t'a hi. Amen. Afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant « C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des grandes villes fortes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous... » Voyez-vous, les 10 qui sont venus, ils les ont fait peur. Ils ont dit, nous ont dit, vous n'avez pas vu ça, c'est des villes tellement fortes, on ne sera jamais capable. On n'est pas une armée, nous autres, on est rien que des Israélites qui viennent de sortir de l'esclavage. On n'a jamais fait la guerre de notre vie. Mais il dit, nos frères nous ont fait peur. Il dit, Moïse, il dit, moi, je vous dis, au verset 29, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. Il dit, souvenez-vous, dans le désert, là, comment Dieu vous a porté comme il porterait son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Mais malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel. Après ça, verset 36, il dit, excepté Caleb. Pour verset 38, excepté Josué. Ça, c'était les deux qui étaient revenus avec des bons rapports. Fait que là, l'Éternel nous a dit, en premier, il dit, montez, ils ne veulent pas. Fait qu'au verset 40, il dit, mais vous, tournez-vous, puis partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Autrement dit, retournez maintenant au désert. Il dit, le Moïse, il dit, vous répondîtes en me disant, nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons puis nous combattrons contre l'Éternel, notre Dieu, nous l'ordonner. Et vous saignîtes chacun vos armes et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas puis ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous et ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel et vous montâtes audacieusement à la montagne. Bon. Dieu dit, envoyez, montez, je vais être avec vous. Non, on ne monte pas, on a peur. Bien, il dit, retournez au désert. Bien, on va monter. Savez-vous que ça déplaît à Dieu? Tu sais, t'appelles un enfant, viens ici. Non. Bien, viens pas. Il vient. Ris pas de ça. C'est du rébellion. C'est d'endurcir son cœur. Une petite tape ses fesses. Tu dis, quand maman te dira d'avancer, tu avanceras. Quand elle te dira de reculer, tu reculeras. Mais le monde dit, go ça, hein? Il a une petite tête dure. Il s'essaye, hein? Puis là, il rit de ça. Riez pas. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Parce que Dieu trouvait pas ça drôle. Il lui a dit, montez, je vais être avec vous. Moïse lui a même parlé, il dit, vous avez vu comment il vous a porté comme s'il porterait son fils dans le désert, comment il était toujours là avec vous, mais vous dites, vous m'écoutez point, puis vous montez point, puis vous fuites. Fait que Dieu il a dit non, qu'il s'en tourne vers le désert. Bien, ils ont dit, on pense qu'on va monter. Il dit, non, allez-vous-en par le désert, on va monter. Dieu il dit, dis-y qu'il ne monte pas. Parce que je ne suis plus là, moi. Il m'a dit, arrange-toi toujours pour être tout ce que Dieu est. Il y a une devise, pas une devise, mais une parole qu'on pourrait dire ici souvent, c'est quand tu es à la bonne place avec les bonnes personnes, faisant les bonnes choses au bon moment, tu vas avoir des bons résultats. Arrange-toi pour être là. Amen. Amen. Quand Dieu avait dit à Élie, « Va-t'en au torrent, là, je leur donnais des corbeaux te nourrir, il était mieux d'être au torrent de Kérit que d'être à Sarepta. » Quand il n'y avait plus d'eau là, il dit là, va-t'en là, à Sarepta, parce que c'est là que moi, c'est là que je vais être. Amen. C'est important d'écouter. Moi, j'aime mieux avoir Dieu avec moi. Amen. Alors, il dit, montez, on ne monte pas. Montez pas, on monte. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec eux autres. Amen. Oh my. Il y a des gens qui ont été entraînés comme ça, puis s'en rendent pas compte. Hey, ça te fait bien les cheveux longs, ils les font couper. Ah, mais ça fait mieux les cheveux courts, c'est vrai. Dans le fond, il les laisse allonger. Mais vous dire de quoi? Remarquez-les. Puis c'est juste une habitude qu'une personne a pris de toujours faire le contraire de ce qui est dit. Vous regarderez, puis on appelle ça être rebelle. Ça, ça se corrige avant que c'est trop tard. Ça te fait bien les cheveux longs. Coupe là-bas. La semaine prochaine, non. Gloire à Dieu. Moi, j'avais toujours dit, quand je vais maigrir, je vais me laisser allonger les cheveux. Après ça, j'ai changé ça de bord. Je vais me laisser allonger les cheveux, mais peut-être maigrir. C'est un essai que je fais, là. Je vais voir si ça marche. Amen. Gloire à Dieu. Mon mari dit, t'es sûr que... Laisse-moi faire, je veux maigrir. Je fais le contraire. Ah, gloire à Dieu. Mais quand tu résistes, être rebelle, c'est résister. Voyez-vous, il résiste toujours à Dieu. Dieu, il fait couler de l'eau ou il assainit un étang d'eau pour eux qui étaient amers. Et puis, aussitôt qu'il manque d'eau, au lieu de dire, « Hey, je suis sûr que le Seigneur va prendre soin. Il l'avait fait la dernière fois, il va continuer de le faire. » Non, il murmure. « Bon, tu nous as emmenés mourir dans le désert. » Il y avait toujours la mort dans la bouche, hein? Ça doit être parce que Dieu ne nous aime pas. Tu nous as emmenés mourir dans le désert. Il dit, ben non. Moïse allait devant l'Éternel, puis disait, l'Éternel disait, prends ton bâton, frappe le rocher, il va couler de l'eau. Mais ils ont toujours comme résisté au lieu de se soumettre à Dieu. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que ces histoires-là, ils ont été écrites pour notre bénéfice. Puis où que cette écriture-là est écrite, c'est exactement dans ce contexte-là. On va aller à 1 Corinthiens 10. Vous savez, des fois, dans l'Église, les gens ne savent pas, puis ils sont dans l'ignorance. À ce moment-là, on les instruit. Puis des fois, dans l'Église, les gens le savent, mais n'obéissent pas. Dans ce temps-là, on les corrige. Dieu a dit que la parole de Dieu est là pour l'instruction, la correction puis l'édification. Amen. Fait que c'est pas trop des messages, on est prospère, là. OK? Gloire à Dieu. Pas parce que vous avez besoin d'être corrigé, là. Dans 1 Corinthiens 10, si je commence à lire au verset 1, vous allez voir que c'est le contexte. Ça dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. » 1 Corinthiens 10. Hein? « Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Alors, il continue. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Autrement dit, il faut toujours surveiller notre cœur. Je suis en train de m'endurcir puis pas croire que Dieu est capable de faire un miracle. Je suis en train de m'endurcir que quand Dieu me parle, je ne me corrige pas. Je suis en train de m'endurcir parce que c'est un cœur humble qui va recevoir la grâce de Dieu. Amen. Alors après ça, verset 13, ça dit « Aucune tentation nous est survenue qui n'ait été humaine. » Ça veut dire qu'un humain n'ait pas été tenté. Et on parle de Jésus ici. « Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Même s'il était dans le désert des fois, puis il y aurait eu une tentation de se plaindre, il n'aurait pas dû. Parce que Dieu n'aurait jamais permis que cette tentation-là de manquer d'eau, de manquer de pain, de toutes sortes de choses, il ne permettra pas que ces tentations-là dépassent leurs forces. Avec la tentation, Dieu prépare toujours le moyen pour qu'ils s'en sortent. Autrement dit, on n'a aucune raison de chialer. On n'a aucune raison de s'endurcir puis de dire, j'ai de la misère à croire que Dieu va le faire. Non, on n'a aucune raison parce qu'avec la tentation dans laquelle on serait tenté de s'endurcir, si on reste humble puis ouvert à Dieu, puis garder un cœur humble, non, Dieu, il est capable. Non, Dieu va le faire. Non, je résisterai pas. Dieu, je le sais qu'il va le faire. Mais la parole de Dieu dit que Dieu prépare le moyen pour qu'on s'en sorte. Amen. C'est important. La Bible a dit que c'est des exemples. On va juste aller à Exode 16, vu qu'on parle des Israélites et que ce soir, je voudrais bien que ce soit le dernier enseignement sur ce sujet-là, de ne pas endurcir notre cœur. Amen. On va avoir fait une série de 4 enseignements. Eh bien, je veux juste qu'on regarde encore aux Israélites. Et puis, juste une instance, quand ils étaient dans le désert, puis qu'avant qu'ils arrivent à cette fameuse terre promise, juste qu'ils viennent de ne pas monter, puis vouloir monter, là. Avant ça, quand ils étaient dans le désert, ils ont chialé parce qu'il n'y avait pas de viande à manger, puis il n'y avait pas de pain. Amen. Et au verset 6, ça dit, « Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. » Tu sais, ce n'est pas la première fois là, qu'il se passait de quoi avant qu'il arrive à ce qu'on a lu tantôt. « Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre lui-même, contre l'Éternel. Et car... Que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? » Amen. Alors, il leur a dit, vous allez voir un miracle. Si on va au verset 12, ça dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasirez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Alors, Dieu, il leur a fait une promesse. On va continuer à lire. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Alors, vraiment, Dieu, il a fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Alors, au verset 16, il dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans leur tente. » Les Israélites firent ainsi, ils en ramassèrent. Au verset 19, Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Autrement dit, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Dieu a dit que vous mangeriez du pain, vous allez en avoir à tous les jours. Amen. À tous les jours, il nous donne notre pain quotidien. Tous les jours, vous allez en avoir. Fait qu'il dit, mangez tout ce que vous avez le droit de manger, puis gardez-en pas. Amen. Ils n'écoutèrent point Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il se mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, ça fondait. Alors le sixième jour, il dit là, par exemple, quand vous allez arriver au sixième jour, vous ramasserez une quantité en double, parce que le lendemain, c'est le sabbat, puis il ne faut pas vous travailler. Fait que vous n'aurez pour les deux jours. OK? Fait qu'il dit, faites ça. Au verset 23, et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est un jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous aurez à faire bouillir, puis mettez-en en réserve jusqu'au matin, et tout ce qui restera sera pour le lendemain. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Mais, au verset 27, le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Voyez-vous, Dieu dit, ramassez-en, prenez-en assez pour votre famille, mangez tout, gardez-en pas pour rien, il va en avoir encore demain. Bien, il y en a qui en ont gardé pareil. Là, il dit, rendu au sixième jour, ramassez-en double, parce que demain, il n'y aura pas, c'est le jour du sabbat, j'en mettrai pas là pour vous faire travailler. Vous allez en avoir en double, faites tout cuire, prenez, ramassez-en double, faites tout cuire comme il faut, puis le lendemain, vous n'aurez déjà de cuire de près. Bien, il y en a qui ont sorti pareil pour en ramasser au cas où qu'il n'aurait. Je vais vous dire quelque chose, ça faisait pas plaisir à Dieu. Ça ne faisait pas plaisir à Dieu. Alors l'Éternel lui a dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? » Voyez-vous, c'est terrible. Il y a deux choses que Dieu entend. Tes prières, quand elles sont faites par la foi, parce que si tu demandes quelque chose selon sa volonté, la parole de Dieu dit, « Il nous entend. » Puis la deuxième chose, c'est les chiolages. Ces deux choses-là, ils entendent. Parce que Dieu dit, « J'ai entendu les murmures qu'ils ont faites dans leur tente. » Dieu entend tes prières, mais Dieu entend aussi tes chiolages. Amen. Fait que Dieu, il a dit, « OK, ils ont ces chiolés, ils veulent en avoir, c'est correct. » Ils sortiront, puis ils ramasseront tout ça. Puis il dit, « L'heure de pas... » Dieu, il veut juste voir si tu vas obéir. L'obéissance amène des bénédictions. Il veut juste voir si tu vas le faire à sa manière. Si tu n'es pas capable d'obéir là, comment tu vas faire pour obéir pour toutes les autres choses qu'il va te demander? Puis même des choses qui amèneraient des grandes bénédictions dans ta vie. Fait qu'il dit, ramassez-en pour le monde qui est dans la maison, mangez tout ça, gardez-en pas jusqu'au matin. Ils en ont gardé pareil. Il dit, rendu au sixième jour, ramassez-en en double, vous n'aurez pas besoin d'en ramasser le lendemain, il n'y aura pas, parce que vous ne travaillerez pas le jour du sabbat. Puis comme ça, vous aurez déjà de quoi de prêt pour le lendemain. Mais il y en a qui ont sorti pour en ramasser encore, amen. C'est ça qui fait qu'à la longue, ils ont endurci, puis ils ont résisté à Dieu, puis ils ont endurci leur cœur. C'est pour ça que Dieu, quatre fois, il dit, n'endurcissez pas votre cœur comme eux autres. Si je vous demande de faire de quoi, faites-le. Ajoutez-en pas trop. Il y avait quelqu'un une fois qui est arrivé, puis il avait donné, je pense c'est une affaire de 50 ou 60 $, ça fait bien des années de ça, à mon frère. Puis c'est drôle, mon frère, il avait juste cru pour 10 $. Puis il est allé voir la personne, puis il a dit, je veux juste savoir, et dit, quand Dieu t'a parlé pour me donner de quoi, c'est quoi le montant que tu avais au début? Bien, il dit, vraiment, il dit, je voulais te donner 10 piastres, mais il dit, je me suis dit, oui, donc, ça a l'air fou de donner un 10 piastres. Il dit, apprends à obéir à Dieu. Dieu ne t'avait pas dit 60, il t'avait dit 10. Bon, Dieu, il veut apprendre, Dieu veut nous faire confiance, puis Dieu veut nous confier des grandes choses, puis Dieu veut être capable de travailler au travers de nous. Mais si Dieu il te dit de faire de quoi, puis t'en rajoutes ou t'en enlèves, c'est pas ça que Dieu veut. Amen. Juste apprendre à faire ce qu'il nous dit de faire, c'est rester humble. On n'a pas besoin d'en rajouter. On n'a pas besoin de rajouter de ce qu'il nous demande de faire. Amen. On n'a pas besoin. Ça sert de démontrer qu'on est plus fin que lui. Amen. OK. Gloire à Dieu. L'ignorance a besoin d'instruction, mais la rébellion a besoin de discipline. Amen. Je vais juste terminer avec cette écriture-là dans Ésaïe 1. Tout le monde connaît cette écriture-là. Ésaïe 1, verset 19. La parole de Dieu est simple. Elle dit, « Si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Amen. C'est simple, hein? C'est simple. Si on est fidèle puis docile, on va manger le meilleur du pays. Dieu en réserve le meilleur pour nous autres. Amen. Mais si on résiste puis on est rebelle, autrement dit, on endurcit notre cœur, bien lui-ci va nous résister. Puis c'est la destruction au bout de ça. Amen. Ça vaut la peine de faire qu'est-ce qu'il nous demande de faire. Amen. Ça demande des efforts. Il y a des fois, il faut piler justement sur notre cœur qui voudrait s'endurcir. Ou des fois, ça n'a pas l'air facile parce qu'on est repris par quelqu'un qu'on ne pense pas. On pas cette personne-là. Mais il semble que Dieu y aurait pu passer au travers d'un autre. Ça aurait été plus facile à digérer. Mais ce qui est important, c'est de faire des efforts. Amen. Si on fait des efforts, Dieu va le voir. Amen. Même si des fois, on dirait, ben, j'ai encore manqué mon coup. Mais si Dieu il voit que tu t'es forcé, il voit l'effort que tu fais. C'est pareil comme un enfant. Hein? Des fois, on a des enfants. Et puis, des fois, on lui dit, on arrive, puis tu dis, ben, il a fait son lit. C'est sûr, les couvertes sont croches un peu. Là. Et puis, les bébelles, ils ont été poussés dans le coin au lieu d'être serrés dans le coffre. Là. Mais il a fait un effort. Amen. Au moins, ça nous réjouit un peu. Mais c'est pareil. Dieu dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses. Combien plus? Combien plus votre Père dans le ciel? Amen. Dieu, il a bien plus de compassion que nous. Puis Dieu, il a bien plus d'amour que nous. Puis Dieu, il a bien plus de générosité qu'on peut en avoir. Fait qu'aussitôt qu'on voit qu'on ne tombera pas parfait demain matin, mais si on a une amélioration, il va voir que ça a rentré. Amen. Oh, gloire à Dieu. On va se lever debout. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Vu qu'on a fini ces enseignements-là concernant de ne pas endurcir notre cœur, je veux juste faire une prière générale pour chacun de nous, pour que Dieu nous le montre. Moi, j'aime ça quand Dieu nous le montre parce qu'il a fallu qu'il me le montre souvent à moi. Amen. Vous autres, j'ai pas toujours été docile. Une fois, on était allé à la pêche sur la glace dans le nord. On était en Abitibi pendant 4 ans. Et puis, les gens qui étaient là, ils avaient dit, « Ouais, ton frère, il nous a dit que s'il était resté ici, il aurait pogné plus de poissons que nous autres. » Et il dit, « Il a parti vite, hein, ton frère, j'ai dû faire un trou de rette là. » Je suis un jeune chrétien, je viens pas me provoquer comme ça. Fais un trou là, mais je suis assis à côté du poêle à bois. On mettait un poêle à bois sur la glace, il y avait bien épais. Puis il y avait un coupe-vent, puis j'étais assis drette là avec l'eau qui fondait, puis ça mirait. J'en ai sorti du poisson. Est-ce que j'en ai sorti du poisson? Oui, j'en ai sorti. Parce que j'avais la foi que le poisson sortirait. Mais j'ai sorti d'autres choses aussi. Je me suis fait brûler le visage au premier degré parce que le soleil plombait. Puis le Seigneur, il m'a dit, retourne pas le lendemain. C'est comme ça me disant dans le mouille de ne pas y retourner. Mais je dis, non, je ne ferai pas comme mon frère qui est parti, moi, y retourner. Oh boy! J'étais rouge comme un petit homard. Mais là, j'ai fait de la fièvre. Puis là, j'ai eu des feux sauvages, un à côté de l'autre. Quand t'es rebelle, là, ça ne marche pas. Puis la fin de semaine d'après, on avait un fin de semaine pour les coupes à Montréal. C'était Advance Coupe. Puis là, on s'en allait là. Puis moi, j'avais des moments sauvages, là, tout le temps. Puis là, à un moment donné, il dit au mari, « Regardez vos femmes, là, puis dites-leur qu'ils sont belles. » Je dirais, « Elle ne sait même pas. » J'avais la face enflée, toute rouge, plein. J'ai payé le prix de qu'est-ce que c'est d'être orgueilleuse, de résister. C'était pas nécessaire que je retourne le lendemain. Si au moins, j'aurais pas retourné, peut-être j'aurais pas fait de fièvre. J'aurais peut-être été rouge, mais pas de fièvre. Fait que le Seigneur, il a travaillé sur moi. Là. Je parle pas au travers de mon chapeau. Je l'ai vu qu'il y avait des petites affaires des fois. Des fois, c'était le Seigneur, des fois, c'était mon mari. Quand il m'appelle par mon nom de fille, je sais ce que c'est. La plante. Hey boy. Yes, sir. Preach. OK. Oh, merci, Seigneur. Mais je me suis aperçue que plus qu'on adoucit notre cœur, plus qu'on a un cœur corrigeable, plus que Dieu fait grâce. Amen. Plus ça devient facile. Alors, je veux prier pour chacun de vous. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, comme l'entrée de ta parole est venue dans nos cœurs ce soir, Père éternel, on veut te glorifier, Père éternel, parce qu'on sait bien, Père éternel, que toute chose que tu fais et qu'on remet entre tes mains, Seigneur, on sait que c'est fait avec amour, douceur, et tu nous amènes toujours, Seigneur. Tu nous corriges, mais avec amour. Et Père éternel, fais-nous voir les choses qu'on doit améliorer, Seigneur. Parce que chacun de nous, on a besoin de ta grâce encore plus, Seigneur. On te glorifie, Seigneur, au nom de Jésus, d'avance, pour tout ce que tu vas faire dans nos vies, tout ce que tu fais et tu continues de faire, parce que tu n'arrêtes jamais, Seigneur. Alors, gloire à toi, Seigneur. Amen.